l'air pur des Barthas. Inspirez, expirez. La nature prend son temps, alors posons-nous le temps d'un soupir. Air pur des Barthas, c'est l'émission du mois d'avril. La nature, chacun la voit à sa façon. C'est pourquoi nous avons demandé aux enfants des écoles, aux professionnels de l'éducation et autres promeneurs rêveurs de nous raconter leur vécu et de nous faire partager leurs connaissances. Mais pour commencer, place aux enfants.
Bonjour Radio Barthas.
Bonjour Radio Barthas.
Bonjour Radio Barthas.
Les enfants de l'école de Sainte-Lucie à Florac ont travaillé sur le thème des arbres. Ils se sont tout d'abord posé tout un tas de questions, ont fait toutes les recherches qu'il fallait et je suis revenue pour enregistrer la réponse à toutes les questions qui se sont posées. Voici le résultat. La croissance de l'arbre.
Comment un arbre pousse-t-il ?
Pour que l'arbre pousse, il faut une graine. Quand on jette un grain par terre, ben, il pousse et il fait l'arbre.
Quand une graine est dans le sol, elle germe et elle devient une petite plante, puis elle commence à grandir et devient un arbre.
Je l'ai dit.
Chacun, une couche de bois se rajoute sur son tronc.
Et son tronc, il rajoute une couche de bois chaque année.
Et il allonge ses branches et allonge ses racines.
Donc c'est comme ça que l'arbre pousse.
Oui.
L'arbre se nourrit par ses feuilles et ses racines.
Les feuilles transforment la sève qui va retourner aux racines pour permettre à l'arbre de grandir.
Il se nourrit du soleil par ses feuilles qui sont tenues en hauteur.
Et alors, c'est ça la photosynthèse avec le soleil ?
Oui. C'est quand la feuille fabrique la nourriture et la rend à l'arbre.
Les feuilles des arbres.
Les petites branches qui sont dans ces feuilles s'appellent les nervures.
Et elles ont aussi des petits trous qui sont les stomates.
Oh, dis donc, vous avez appris ça.
Wow. Les stomates servent à respirer. Et elles ont aussi des sortes de petits fils qui s'appellent les nervures, qui permettent à la sève d'aller dans les feuilles.
Le travail des feuilles, c'est de redonner à manger aux racines. C'est leur travail.
Alors, c'est quoi les différentes feuilles qui existent ? Elles sont comment ?
Elles peuvent être rouges, vertes, marron, jaune, orange.
Les feuilles n'ont pas la même couleur parce qu'elles n'ont pas les mêmes pigments.
Il y a des feuilles composées et des feuilles simples.
Et alors, on en était à la question, pourquoi les feuilles tombent ?
Parce que l'arbre n'a plus besoin d'elles.
Pourquoi les feuilles ont des feuilles ?
Pourquoi les feuilles ont des feuilles ?
Les feuilles servent à faire des mouchoirs pour se boucher.
Les feuilles de l'arbre.
Puisque c'est avec le tronc qu'on fait les feuilles, il ne faut les mouchoirs. C'est pourquoi il ne faut pas beaucoup se moucher.
Si on t'en balade.
La sève des arbres.
À l'intérieur du tronc, la sève circule.
Et aussi, les arbres, ils font avec ses branches, et bien, ils font passer la sève.
Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez me décrire le trajet de la sève ?
Le
Ouais. Comment la sève circule dans l'arbre? D'où elle vient, où elle va et comment elle circule?
Les racines prennent de la terre, de l'eau. Avec ça, elles fabriquent de la sève qui monte dans le tronc. Elle passe par les branches, elle va dans les nervures des feuilles. Et avec le soleil, les feuilles vont transformer la sève qu'elle va faire redescendre aux racines.
J'allais dire comme Elia. Sauf que l'arbre prend de la terre pour faire la sève.
La sève est fabriquée par les racines, monte par le tronc, par les branches, par les petites branches et arrive dans la feuille. La feuille la transforme en nourriture pour l'arbre et la fait redescendre par les petites branches, par les grosses branches et par le tronc.
La sève sert aussi à faire des médicaments.
Les différentes sortes d'arbres. Existe-t-il différentes sortes d'arbres ?
Existe-t-il différentes sortes d'arbres ?
Oui. Il existe la famille des feuillus,
des fruitiers et des conifères.
Il existe des sapins, des bouleaux et des savonniers et des chênes.
Et des marronniers.
Et des pommiers.
Les arbres n'ont pas toutes les mêmes feuilles.
Les conifères sont ceux qui n'ont pas de feuilles, font partie des races qui n'ont pas de feuilles, mais des épines ou des écailles.
J'ai déjà vu un sapin.
Il existe le séquoia qui était un arbre très grand, au moins qui mesurait 113 millimètres. Mètres.
Non. C'est tout simplement le plus grand, le séquoia.
Et le séquoia a une écorce qui le protège du feu.
J'ai déjà vu un séquoia et il était plus grand que moi.
Les hôtes des arbres.
Les fourmis habitent dans le tronc.
Les bouts aussi habitent dans le tronc. Ils accueillent des écureuils et des hiboux.
Et aussi, il y a sortes d'arbres qui protègent les écureuils.
Et il y a les plantes parasites qui peuvent étouffer l'arbre.
Ah. Au revoir, Radio Martin.
Nous croquera tous un nain.
609,
sans l'air sort,
j'ai misé
sur le 8,
9 en 6,
6 en gelé,
c'est touffu,
c'est foutu,
j'ai serré
mon moteur et c'est la fin. Point.
Avez-vous remarqué ce petit bruit depuis tout à l'heure? Écoutez encore. Qu'est-ce que ça pourrait être, à votre avis? Vous entendez? On va vous laisser réfléchir. Une petite pause musicale et juste après, nous allons tout vous dire sur ce bruit plus ou moins mystérieux.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois. qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Le cri que vous entendez, c'est celui de la chouette hulotte femelle. Oui, la chouette hulotte, mais la femelle. Vous devez sûrement connaître celui du mâle. Écoutez le chant du mâle, chouette hulotte. La chouette hulotte, c'est l'animal emblématique des forêts. Pourquoi ? C'est parce qu'il niche souvent dans les trous des vieux arbres. Les chouettes mangent des petits animaux, voire même des petits oiseaux. Il faut savoir que les chouettes sont fidèles et sédentaires. C'est-à-dire qu'elles trouvent un territoire et qu'elles y restent toute leur vie. C'est pareil pour le partenaire. Une fois qu'ils se sont trouvés, le mâle et la femelle restent ensemble jusqu'à ce que l'un des deux meure. En ce moment, du mois de mars jusqu'au mois de mai, les femelles pondent leurs œufs. Vous pourrez commencer à entendre et peut-être à observer, si vous avez de la chance, l'éclosion des petits bébés chouettes hulottes. Les petits sont nourris pendant un mois encore dans le nid. Ensuite, ils vont s'essayer au vol, un vol qui va être systématiquement raté. Le petit va tomber au pied de l'arbre, les parents vont continuer à le nourrir en lui apportant de la nourriture, et le petit va s'exercer à voler petit à petit, il va commencer à apprendre et à renforcer ses ailes. Donc si vous croisez un bébé chouette hulotte au pied d'un arbre ou dans les alentours, ne le ramassez pas, il y a ses parents qui s'en occupent, il est juste en train d'apprendre à voler. Et une autre information, si vous ne le saviez pas, les chouettes vivent la nuit, mais elles aussi prennent des bains de soleil. Elles se mettent face au soleil, les ailes tendues ou pendantes, et elles s'endorment doucement en prenant la chaleur du soleil. Allez, on écoute une dernière fois le cri de la femelle et le chant du mâle chouette hulotte. Être professionnel de l'éducation à l'environnement, c'est quoi ? Mais d'ailleurs, c'est quoi l'éducation à l'environnement ? voici le portrait d'une de ces structures. De ces personnes qui savent faire le lien entre l'homme et la nature.
Alors, tu travailles à Cévennes Écotourisme. Et depuis combien de temps déjà tu travailles là-bas ?
Ça fait un peu plus d'un an que je travaille à Cévennes Écotourisme.
Et alors, c'est quoi Cévennes Écotourisme ?
Cévennes Écotourisme, c'est une association qui a été créée en 2001. Et c'est un réseau de professionnels du tourisme qui s'engagent dans le tourisme durable. Donc, ce sont des professionnels... Donc il y a des hébergeurs, des restaurateurs, des sites de visite et des accompagnateurs d'activités de pleine nature.
D'accord. Et donc tu as dit tourisme durable. C'est quoi le tourisme durable ?
Le tourisme durable, c'est le tourisme où les principes du développement durable sont appliqués. Et nous, Cévennes Écotourisme, c'est... Donc l'écotourisme, c'est le tourisme, c'est du tourisme durable, mais qui est appliqué en espace protégé, vu que nous, on travaille sur le territoire du Parc National des Cévennes, qui est un espace naturel protégé.
Et le partenariat avec le Parc National, il a été fait dès le début ?
Donc le partenariat avec le parc a été créé depuis le début de l'association, donc en 2001. On met en œuvre la signature de la charte européenne du tourisme durable. Donc cette charte existe. Le parc l'a signée en 2002 au titre du volet 1. Et nous, on s'occupe du volet 2. Cévennes Écotourisme s'occupe du volet 2 et ce sont pour les entreprises touristiques. Donc tout ce qui est hébergeurs, restaurateurs, sites de visite et activités de pleine nature.
Donc une charte, c'est quelque chose que l'on signe. Qui signe la charte et qu'est-ce que ça leur apporte de la signer ?
Alors les professionnels du tourisme, en fait, s'engagent dans une démarche de progrès. Il y a différentes étapes pour cela. La première, c'est un diagnostic de la structure. Par exemple, pour un hébergement, il y a d'abord un diagnostic au niveau économique, social et environnemental. Ensuite, des recommandations sont émises par le Parc national des Cévennes. L'étape qui suit, c'est un plan d'action. Donc, c'est-à-dire que le professionnel du tourisme s'engage pour les 3 ans à venir à mettre en place des actions qui vont dans le sens du Parc national des Cévennes et du tourisme durable. Le but de ces professionnels de tourisme est vraiment de limiter leur impact sur l'environnement.
J'ai vu que vous aviez des outils pédagogiques, on pourrait dire, que vous distribuez. Alors, c'est quoi ces outils ? À qui sont destinés ?
Alors pour les outils de Cévennes Écotourisme, on va dire que c'est notre deuxième mission. La première, c'est vraiment d'accompagner les professionnels du tourisme vers cette signature de la Charte européenne du tourisme durable. Donc ça, c'est un accompagnement individuel. Et en termes d'accompagnement collectif, donc c'est-à-dire pour qui est accessible vraiment à tous les professionnels, on crée des outils de sensibilisation et de découverte de l'environnement. Il existe différents outils, comme un carnet à croquer, qui est un carnet de recettes et qui présente les produits du territoire, comme les produits du terroir, comme le pélardon, la truite fario, etc., la châtaigne. Et on a également des outils qui sont plus accessibles pour les familles et pour les enfants, notamment le sac à dos curieux de nature, qui est un sac à dos de découverte ludique de l'environnement avec du matériel pédagogique type boîte loupe, stéthoscope pour écouter la sève monter dans les arbres au printemps, des petites pinces, une loupe, des jumelles, boussoles, etc. Donc tout ce matériel à disposition chez les hébergeurs du réseau Cévennes Écotourisme. On a également un petit carnet qui s'appelle le carnet nature et qui propose la découverte de l'environnement à travers des quiz sur la faune, la flore. Également des petits ateliers de bricolage avec des éléments naturels.
On parlait d'outils pédagogiques. Je suis également avec Sandra, qui est stagiaire à Cévennes Écotourisme. Est-ce que, Sandra, tu peux nous parler du livret d'accueil ?
Oui. Alors, le livret d'accueil est mis à la disposition des visiteurs. Il permet une approche avec le lieu où il se trouve. Les visiteurs pourront lire des informations sur les espaces protégés, le Parc national des Cévennes, les sites à visiter ou les marchés du secteur. C'est un classeur en bois d'érable ou cerisier. Dans celui-ci, il se trouve des informations sur les espaces protégés, le réseau des parcs naturels du Massif central, les numéros d'urgence et plein d'autres informations que les adhérents auront rajoutées.
D'accord. Et tu as un stage de combien de temps ici ?
J'ai un stage d'un mois dans le cadre de mon bac.
Thank you.
Et comment on fait pour savoir qui fait partie du réseau ?
Alors, pour savoir qui fait partie du réseau Cévennes Écotourisme, vous pouvez consulter notre site internet au www.cévennes-écotourisme.com ou nous envoyer un mail à info@cévennes-écotourisme.com.
Donc, si on est touriste et qu'on va chez des gens qui sont labellisés, ça se dit comme ça ?
Non ? Alors, ce ne sera pas un label. Cévennes Écotourisme, c'est vraiment une association, un réseau de professionnels. Et ensuite, la Charte européenne du tourisme durable, c'est une démarche de progrès. Ça va être des personnes qui sont adhérents du réseau.
D'accord. Donc, du coup, si on va chez des gens qui sont adhérents du réseau, ça veut dire qu'on peut avoir une qualité pas supérieure, mais on sait qu'on est chez des personnes qui appliquent les principes du développement durable.
Oui, c'est vrai qu'ils sont déjà sensibilisés quand ils viennent vers l'association Cévennes Écotourisme. Ce sont déjà des personnes sensibilisées à l'environnement, au respect de la nature. Et ils mettent tout en œuvre pour à la fois préserver l'environnement et le valoriser à travers des outils de sensibilisation comme je vous ai présenté.
Est-ce qu'on peut rappeler les trois principes du développement durable ?
Alors, les principes du développement durable, ça s'applique sur donc le côté économique, le volet social et le volet environnemental.
Donc, ça veut dire que c'est pas juste des gros hippies écolos dans la forêt. Il y a aussi un côté économique et social.
Oui, exactement. Alors, par exemple, sur le côté social, on pourrait indiquer que Cévennes Écotourisme, depuis 2013, essaie de favoriser des actions en faveur de tout type de public et notamment du public en situation de handicap. On a fait des fiches éco-gestes qui sont des fiches qui présentent des petits gestes éco-responsables qui sont à disposition chez les hébergeurs du réseau et on les a fait décliner en braille pour le public déficient visuel.
Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous laisser un numéro de téléphone ? Tu nous as donné le site internet. Est-ce que tu peux nous donner un numéro où joindre ?
Oui, donc vous pouvez nous joindre au 04 66 45 12 44.
Eh bien, merci.
Bonne journée. Au revoir.
Thank you.
Et maintenant, le silence. Mais dans la nature, le silence n'existe pas vraiment. Il faut juste savoir écouter. Écouter le vent, écouter les animaux, écouter même les arbres qui poussent. Mais aussi, écouter ces personnes qui ont vécu des moments singuliers et inoubliables en pleine nature. Nous allons donc nous quitter sur ces derniers témoignages cœur-nature. Du coup, toi, tes histoires.
Alors, mes histoires. Alors, du coup, pour démarrer sur cette histoire de ressenti et d'émotion dans la nature, j'ai envie de dire que des moments particulièrement propices à ça, à cette émotion, c'est les nuits passées dans la nature. Et j'avoue que j'ai un goût très particulier pour ça. J'adore dormir seule. Dans la nature, ça m'est arrivé aussi en groupe, etc. Mais seule, c'est vraiment une sensation très particulière. Et donc, je pratique depuis très longtemps, dans divers lieux, voilà. Et du coup, j'ai quelques anecdotes par rapport à ça. Et en fait, je me rends compte que souvent, ces nuits dans la nature sont passés à côté d'un arbre. Généralement, je me trouve un compagnon pour la nuit qui saura me protéger. Voilà. Donc, peut-être pour commencer, je parlais d'une sorte de ma première nuit d'aventurière. J'avais 14 ans et puis j'avais un pote cerisier dans une colline qui était à peu près à 800 mètres, 1 km de la maison de mes parents. J'ai voulu passer la nuit auprès de ce cerisier. C'était vraiment un grand rêve. Et mais bien sûr, mes parents n'étaient pas d'accord. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'avais 14 ans, donc. Et donc, j'ai fait croire que je dormais dans le jardin. Donc, j'ai fait tout un montage de sacs à dos, de machins. Donc, j'ai fait un premier campement dans le jardin en faisant croire qu'il y avait une forme dans le sac de couchage et tout. J'avais élaboré tout bien le machin. Puis, j'avais un autre sac à dos avec un autre sac de couchage, etc. Et je me suis fait la clôture du jardin et je suis allée de nuit voir mon cerisier dans la colline. Et là, je me suis installée à ses pieds. Et j'étais bien, j'avais pas peur. Et dans la nuit, il y a pour moi quelque chose d'invisible qui est en même temps de l'ordre du dialogue. Il y a quelque chose de très fort qui se passe. Dans le dialogue avec la nature, dans l'émotion. Et puis, généralement, je ne dors pas énormément parce que je me rends très attentive à ce qui se passe. Et en même temps, je dors assez bien parce que je me sens en confiance. Quand j'ai peur, c'est des hommes, enfin des humains, quoi. Et donc, cette première nuit au pied de ce cerisier, ça a été pour moi, je ne sais pas comment dire, le début de ma vie d'aventurière, quoi. C'était un défi, c'était fort, quoi. Je me suis levée très tôt le matin, bien sûr, à l'aube, hop, je suis rentrée et voilà. Et c'était un moment très, très fort. Et c'était relié à l'amitié que j'avais avec ce cerisier c'était un moment très particulier et pour moi très important dans ma vie après.
Et t'as pas ressenti de peur ?
Si, bien sûr, il y avait quand même une forme de stress, d'angoisse, mais en fait plus reliée à la rencontre d'humains. Voilà. Mes peurs, elles sont pas des animaux ou quoi. Mais des humains, ça je les gardais toujours, quoi. Récemment, je me suis refait une nuit de bivouac il y a quelques mois. Et vraiment, mon souci, bon, il y avait les sangliers, bien sûr, parce que j'étais dans des lieux très fréquentés par les sangliers, puis c'était au mois de mai, donc voilà. Mais ma vraie peur, c'était vraiment les humains. Donc il fallait que je me cache des humains. Voilà, c'était... Bien sûr, il y a une protection par rapport aux sangliers, mais bon, je savais qu'ils n'allaient pas foncer droit dans ma tente, etc. Mais par contre, les humains, je les crains. Oui. Voilà. Mais quand je sais que je suis à l'abri des humains, je n'ai pas peur.
D'accord.
Je suis vraiment très bien. J'ai une autre anecdote qui est assez jolie. J'ai un lieu que j'affectionne particulièrement qui s'appelle la Sainte-Baume, qui est... près d'Aix-en-Provence, d'Aubagne, enfin qui est dans le sud de la France, qui est un lieu un peu sacré, c'est-à-dire qu'on est au milieu de la garrigue et il y a une grande falaise calcaire qui abrite une très vieille étrée avec des vieux ifs aussi. Donc c'est une forêt relique qui date de la dernière glaciation, donc c'est un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on a une forêt de moyenne montagne, enfin même de montagne, au milieu de la garrigue. Et donc, il y a eu la légende de Marie-Madeleine. On raconte que Marie-Madeleine, l'amoureuse de Jésus, aurait fini sa vie dans cet endroit-là, parce qu'il y a une grotte, etc. D'accord. Donc, c'est un lieu très fréquenté, c'est un lieu de pèlerinage, etc. Et moi, j'ai découvert ce lieu, j'avais 16 ans. Et j'en suis tombée amoureuse, parce qu'il y avait pour moi vraiment une grande force dans ce lieu, des arbres incroyables. Quelque chose de très particulier, de très très fort avec la nature. Et donc j'ai fréquenté très régulièrement, j'étais jeune fille au pair à l'hôtellerie qui était près de la forêt, et tout ça pour passer tout mon temps dans la forêt. Et donc dès que je pouvais, je dormais dehors. Et j'avais un autre pote qui s'appelle Héraclès, qui est un très très vieux chêne de quasiment 300 ans. Et donc, dès que je pouvais, j'allais dormir au pied de ce chêne. Comme ça, une fois, je reviens dans ce lieu, après des mois d'absence. Et puis, dans la journée, je me balade. Et en me baladant, je tombe nez à nez avec un renard. Mais on a vraiment quelques secondes où nos regards s'échangent. Et puis, bon, il part... Voilà. Et le soir, j'avais prévu de dormir à la Belle Étoile sous mon pote Héraclès. Donc, j'installe mon campement, etc. Et voilà, passe un bout de la nuit. Et au milieu de la nuit, il y a un animal qui vient et qui commence à jouer près de mon sac de couchage, voire comme un jeune chiot à tirer sur le sac de couchage. Donc ça me réveille et donc je capte que c'est un jeune renard qui est là. Et voilà, il part. Et puis bon, alors je racontais ça à l'hôtellerie, ça faisait rire tout le monde. Et puis la nuit suivante, je dors sous Héraclès. Pareil, au milieu de la nuit, un jeune renard qui vient et puis qui joue, mais vraiment comme un bébé chien, quoi. Il jouait, il tirait sur les trucs et tout. Et puis, trois ennemis rebelotent. Sauf que le matin, je me réveille et il me manquait une chaussure. Donc, le renardo avait piqué la godasse, comme jouet. Et c'était très marrant. Ces nuits, c'était très, très fort parce que... Alors non seulement il y avait la connivence avec la montagne, avec l'arbre, il y a vraiment quelque chose de particulier dans la nuit, je trouve. Mais en plus, il y avait la visite de ce renard. De jour, ça se serait jamais passé. Il se serait jamais approché de moi. Ça sentait bien l'humain, quoi. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Et donc, il a pas eu peur, il est venu. Et alors, c'est très marrant parce qu'après, à l'hôtellerie, on m'appelait la maman du renard, quoi. C'était devenu une histoire... Et voilà, et je suis rentrée pieds nus à l'hôtellerie ce jour-là. Il me manquait une pompe que je n'ai jamais retrouvée. Et c'est vrai qu'il y a des liens particuliers avec les animaux la nuit. J'avais dormi aussi une nuit comme ça, dans une vallée près de Vébron. Et j'ai pas pu dormir de la nuit à cause des loirs. il faisait un boucan en enfer, il mangeait les faines de hêtre, mm-hmm. les petites graines, et ils étaient là, mais limite sur moi, c'était incroyable. Et j'adore ça, parce que vraiment, on fait partie de la nature. Dans la nuit, on est moins dans cette distinction entre nous et la nature, ce qu'on fait habituellement, mais on fait partie d'elle. On devient aussi invisible, finalement, pour les animaux. Il n'y a plus du tout cette peur, cette crainte. On fait partie de cette nature. On est partie intégrante. Et c'est bon. Enfin, pour moi, c'est vraiment une sensation que j'aime. Tout comme j'adore cet espace infini des étoiles, du ciel... Les ombres qui se découpent, les lueurs qu'on voit pas habituellement, et puis quelque chose que les autres n'ont pas. On a un moment rien que pour nous, quoi, rien que pour soi. Et quand je parle de dialogue, il y a vraiment ça, l'idée d'une intimité, en fait, avec la nature. D'ailleurs, quand je me balade seule, et la nuit... autre chose que j'aime pas, qui est pas forcément de la peur, mais je supporte pas être surprise par d'autres humains. J'ai vraiment l'impression d'être violée dans mon intimité. Voilà, c'est vraiment comme une relation amoureuse. Je suis là avec la nature, avec ces êtres, et il se passe quelque chose. Voilà, je leur parle, ils me parlent, et il y a vraiment des ondes, des énergies qui circulent, quoi. Voilà. Après, j'ai vécu d'autres nuits sous les tropiques. Et ça n'a rien à voir en termes de...
C'est différent.
Ouais, de sensations, de sensorialité. La nuit tombe plus tôt sous les tropiques, en plus. Donc, toute une partie de la soirée, on la vit dans la nuit. Donc, c'est très particulier, avec souvent des sons très assourdissants. Des insectes qui font des sons où on peut même plus parler. Alors c'est pas très long, parfois ça dure une demi-heure, une heure, mais on peut plus parler, on est juste pénétré par ces sons-là. Et là aussi, quelque part, on est complètement fondu dans la nature. Mais j'ai envie de dire que par rapport à une sensation que j'ai pu avoir dans nos forêts ou dans nos montagnes, là-bas, c'est comme si de toute façon on est... On est sous le pouvoir de la nature, quoi. Chez nous, on a l'illusion que l'on a un pouvoir. Mais en forêt tropicale, on n'est rien. Enfin, on n'est pas grand-chose, en tout cas, à côté de tout ce qui se passe. Puis bon, là, des fois, oui, de la peur par rapport aux animaux, parce que c'est... Bon, en Guyane ou bon, en Équateur ou en Malaisie, bon, ben, y a les serpents, il y a des mygales, il y a toutes sortes de bestioles, il y a le jaguar aussi. Donc quand on se lève pour aller faire pipi, c'est... voilà. Mais donc c'est vrai qu'il y a plus de méfiance, on sent plus peut-être une proie. Et en même temps, il y a quelque chose de très fort dans cette sensation de... d'être un petit rien dans un grand tout. Et c'est fort. Puis en plus, souvent, sous les tropiques, on dort dans des hamacs. Et ça, le hamac, c'est quand même très... c'est... Comment dire? C'est une sorte de cocon qui est hyper confortable et qui dispose aussi vachement à l'ouverture par rapport à l'environnement, quoi, parce qu'on est complètement dans l'environnement suspendu et c'est assez fort. Voilà, quelques
yes.
quelques nuits dans la nature.
« C'était L'air pur des Bartas, l'émission nature mensuelle. Diffusée le vendredi à 18h en semaine paire et le dimanche à 9h en semaine impaire. Sur Radio Bartas, le 107.0 ou sur internet www.radiobartas.net.